Vivez le QI Jazz Festival au travers d'émissions uniques, rencontres et concerts en direct sur RTS La Première.
Vertigo, Pierre-Philippe Cader.
Et Jérôme Nussbaum en régie, bienvenue à vous. Jazz cordéon, c'est un mot inventé ce jour-là, ce jour même, qui mélange jazz et accordéon. Je pense pas l'avoir inventé, je pense que quelqu'un a dû le dire avant moi, mais voilà.
Je prenais des notes.
Prenez des notes, je suis Kim Jong-il et vous êtes le...
Il semble avoir entendu Yvette Horner parler un jour
de jazz cordéon, Yvette Horner. Non, pas du tout. On a le plaisir de recevoir, la rime serait juste, mais c'est Léa Gasser que nous recevons. Nous allons parler avec elle de son quintet, de son travail de musicienne de jazz à l'accordéon. C'est pas si courant. J'ai fait un petit peu le tour de la question. C'est pas si simple de trouver des hommes et des femmes qui pratiquent cette musique avec de l'accordéon. Il y en a quand même. Il y en a même ici pas mal en Suisse romande. Mais nous verrons avec elle de quoi il en retourne. Dans cette émission également, avec vous, Olivier, on va un peu pointer les événements les plus attendus en termes de concerts de 2024, puisque on annonce le retour sur scène de gens qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. R, notamment, Lenny Kravitz et bien d'autres. Vous nous raconterez tout ça tout à l'heure. Avec vous Thierry Sartoretti, bonjour, on ira chez les Kurdes de Genève.
Exactement, puisqu'il y a un festival kurde, la 13e édition, qui a lieu samedi aux Avanchets.
Avec de la musique qu'on n'a pas l'habitude d'entendre.
En effet, mais pourtant...
Sauf chez vous, si vous écoutez
oui,
ça.
Oui, mais ils sont des millions à l'écouter, donc c'est une musique pas si minoritaire que ça.
Non, c'est pas du tout minoritaire. Il y aura même une superstar de la musique kurde qui compte des millions de vues sur YouTube, qui sera présente à Genève pour ce festival. Ça va se passer le samedi 27 aux Avanchets. On rejoindra en direct de quelque part. On rejoindra Leila Chonsky. Elle est en compagnie du violoniste Baiju Bat. Et là aussi, on parlera de musique avec des quarts de ton dans tous les sens, puisque on y jouera des sonorités orientales et manouche dans ce travail du trio Zamakan. L'album s'appelle Dans le ventre de la nuit. Et puis, en toute fin d'émission, nous rejoindrons Michel Wojta au téléphone. Il est demain, samedi et dimanche, au théâtre de l'Odéon à Villeneuve, pour y lire Nathalie Sarraute, avocate, autrice, dramaturge. Il l'a rencontrée en 1986, c'était au Festival d'Avignon. Il nous racontera un petit peu tout ça, et puis surtout, pourquoi il nous lit aujourd'hui sur scène Nathalie Sarraute. Mais pour leur place, à notre invité, l'accordéoniste Léa Gasser.
Vertigo.
C'est toujours un peu mélancolique, non, l'accordéon?
Vous trouvez? À cause du tango, peut-être?
Oui, à cause du tango, sans doute.
Ou des balles perdues.
Ou des balles perdues.
Un petit ballon perdu.
Exactement. Bonjour, Léa Gasser.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes accordéoniste, donc, ça, on l'aura compris. Et vous êtes à la tête de votre quintet, le Léa Gasser Quintet, en tournée dans le cadre de cette tournée suisse Diagonal Jazz 2024. Des dizaines de groupes, des dizaines de concerts partout en Suisse. Vous trouverez tout le programme sur Diagonal Jazz sur Internet, tout simplement. Mais on donnera vos dates, bien évidemment, tout à l'heure. Alors, évidemment, la première question qui se pose, c'est pourquoi l'accordéon et pourquoi passer de l'accordéon à l'accordéon jazz dans votre cas, Léa Gasser?
C'est une bonne question. En fait, quand j'étais enfant à Zurich, il y avait une porte ouverte à l'école de musique. Et puis, je suis allée là-bas avec mes parents pour voir et essayer des instruments. Et je crois il y avait l'accordéon qui me plaisait bien parce que il y a tous ces boutons, puis le prof il était hyper sympa. Mais puis il y avait aussi le piano qui me plaisait bien et la trompette parce que j'ai pu faire sortir un son. Et puis en fait à la maison, je me suis dit ces trois instruments, pourquoi pas l'accordéon. Je crois que ça se passait comme ça. En fait, c'est pas que je connaissais personne dans ma famille qui jouait à l'accordéon et ouais.
C'est un coup de cœur d'enfant, c'est ça?
Ouais, je dirais.
Ouais. Alors, l'accordéon, vous l'apprenez de manière classique. C'est l'accordéon classique, on est d'accord, au conservatoire. Et ensuite, vous passez à l'accordéon jazz. Comment ça se fait, ce pont, ce tremplin, cette passerelle entre les deux genres de musique?
Chez moi, en fait, ça se faisait assez tard. Du coup, quand j'avais 19 ans, j'ai commencé un bachelor en musique classique à Berne, à la HKB. Et j'ai fait 3 ans de musique classique. Et déjà pendant mes études, je me sentais pas vraiment à ma place où l'accordéon classique, t'as non plus vraiment une place très précise avec ton instrument. Il faut que tu te cherches un peu ta place à toi. Et je me sentais toujours un peu bloquée, genre tu lis que des partitions, mais t'improvises pas du tout, t'es pas libre. Et du coup, j'ai aussi commencé à écouter des concerts de jazz pas mal à Berne, et je me suis dit mais le son de l'accordéon ou la musique improvisée, j'aime beaucoup. Et du coup, j'ai commencé à prendre des cours en accordéon jazz. Mais en fait, après mon bachelor, j'ai totalement arrêté la musique pendant un an parce que j'en avais tellement marre. Je voulais même vendre mon accordéon. Heureusement que j'ai pas fait, ça coûte cher. Et et du coup, beaucoup plus tard, j'ai repris un master en jazz ici à Lausanne, à l'EMU.
Ouais. Juste par rapport à cette transition que vous avez faite, on sait que les musiciens classiques ont parfois, alors je sais que je vais me faire maudire, mais du mal à sortir de la partition et à improviser. C'est ce que vous avez vécu aussi?
Ah ouais, beaucoup, ouais. Au début, en fait, je voulais tellement improviser et tout ce monde du jazz, ça me plaisait bien, mais puis à chaque fois que je le faisais, ça me stressait à fond et ça sonnait pas bien et j'étais stressée et tout. Et en fait, heureusement que je suis tombée sur mon prof Denis Croisonnier, le prof d'accordéon de jazz d'ici à Lausanne, parce que lui, il vient aussi de la musique classique et du coup, il sait bien commencer de passer de la musique classique au jazz. Et en fait, il me disait souvent, mais Léa, tranquille, une chose après l'autre. Mais c'était pas du tout évident. Et je trouve encore maintenant, des fois, je sens qu'à la base, je venais depuis la musique classique.
Ouais, Denis Croisonnier, il a enregistré des disques qu'on trouve. Par ailleurs, on le trouve aussi sur toutes les plateformes et tous les réseaux. Écoutez-le, c'est vraiment, vraiment très, très bien. Thierry, vous aviez une question.
Oui, quand on apprend l'accordéon classique, est-ce qu'on joue du Mozart ou du Beethoven, compositeur qui n'avait pas d'accordéon à leur époque, puis du coup, il faut se glisser là-dedans, ou il y a un répertoire classique qui intègre l'accordéon pour de vrai depuis le début?
Il y a les deux. Du coup, c'est vrai qu'on joue beaucoup la musique baroque et classique. Je crois Bach, s'il aurait connu l'accordéon, il avait écrit beaucoup pour l'accordéon parce que ça va tellement bien, cette musique pour l'accordéon. Je trouve que c'est comme une orgue qui en plus peut respirer vraiment. C'est tellement beau. Et puis Mozart, Haydn, ça marche très bien aussi. Puis après, il y a la musique contemporaine. Dans les ensembles contemporains, on trouve très souvent aussi l'accordéon et l'impro libre.
L'accordéon, physiquement, c'est difficile de le tenir sur scène. On voit de plus en plus de musiciennes et de musiciens qui portent une sorte de harnais avec l'accordéon accroché dessus, c'est ça? C'est juste ou pas? Vous avez un système de bretelles pour le tenir, l'accordéon? Vous le tenez sur
un exosquelette?
Un exosquelette d'accordéon, oui, exactement. Ouais.
J'ai des bretelles, mais en fait, quand tu es assise, tu portes l'accordéon vraiment sur tes jambes.
Oui.
Mais les bretelles, ça aide juste à ce que l'accordéon ne bouge pas trop, mais c'est surtout, c'est posé sur les jambes.
On a entendu quelques extraits de votre travail avec le quintet. Je vous propose d'écouter un titre, il s'appelle « Nuit dansante ». On va écouter un extrait de ce titre et on reviendra dessus pour en parler. Léa Gasser est notre invitée avec son quintet en tournée dans le cadre de Diagonal Jazz. On l'écoute. Thank you. On disait tout à l'heure que l'accordéon avait un petit côté nostalgique quand même. On le retrouve un peu là, non ? Ça raconte une histoire, cette musique que l'on entend. Mais quelle histoire ? Qu'est-ce que vous nous racontez avec l'accordéon, Léa Gasser ?
Je crois que j'aime bien raconter des petites histoires de mon quotidien et de la vie. Je crois avec la musique, je capte souvent des petits moments que je vis dans, pendant mes journées. Ou là, la nuit dansante, bah, c'est justement un moment vers le soir que je voulais capter, qu'il y a avec une certaine énergie et un truc dansant, mais aussi un côté mélancolique. Et je pense que ouais, c'est vrai que mes morceaux, il y a très souvent un côté mélancolique dans mes morceaux.
Ça vient de vous ou ça vient de l'instrument ?
Bah, je crois les deux. C'est vrai que j'ai écrit beaucoup, beaucoup de morceaux en mineur. Je pense majeur, je ne sais même pas. Mais ouais, l'accordéon, c'est vrai, je crois. Ça porte tellement un côté mélancolique, c'est fou.
Nostalgique.
Est-ce qu'on peut faire pleurer un accordéon ? Comme par exemple un saxophoniste, un trompettiste ou un clarinettiste peut comme ça tordre la note pour lui donner un espèce d'air de plainte ? Ou on appuie une touche, puis ça sort et puis voilà, où il y a moyen de...
Oui, tu peux, ben, je dirais tu peux beaucoup moins transformer le son qu'un saxophoniste peut-être, mais si tu appuies à moitié sur le bouton, ça fait un genre de... Ouais, ça transforme un peu le son. Et puis avec le soufflet, tu peux quand même beaucoup faire agrandir ou diminuer le son.
Est-ce que votre accordéon, il est préparé ou il est électronique ? Est-ce que vous utilisez des effets avec votre accordéon ou est-ce que c'est le son pur de votre accordéon ?
Bah alors là, dans mon quintette, c'est le son pur. Mm-hmm. Mais bah, comme c'est un disque, ça a été enregistré. C'est...
Bien sûr.
Mais après, c'est vrai que je joue dans un duo qui s'appelle Oxeon. Et là, on utilise aussi pas mal des pédales d'effets. Et c'est quelque chose que je suis en train de découvrir. Et je trouve ça justement très intéressant parce que l'accordéon, c'est pas du tout fait pour. Pas comme une guitare où c'est évident que tu branches quelques pédales. Et du coup, ça m'ouvre un peu un nouveau monde où j'aurais envie de me plonger encore beaucoup plus dedans.
Ce duo dont vous nous parlez, parce que c'est un duo, ce groupe, c'est un duo voix-accordéon, accordéon avec effet. Pourquoi cette alliance de ces deux univers très différents, comme ça ?
Les deux univers.
Ouais, entre la voix et l'accordéon, c'est ces sonorités qui sont très, très différentes, avec en plus l'accordéon qui est branché sur des effets spéciaux.
Ouais. Bah, les deux, on est branchés sur les effets.
Ouais.
Bah, c'est Sylvie Klein à la voix et on s'est connus à l'EMU, on est devenus des amis. Du coup, je crois que c'est parti de là qu'on voulait
travailler ensemble.
Ouais, exact. Et puis les deux, on vient depuis la musique classique. Et je crois qu'on a une approche un peu similaire pour travailler la musique. Ça nous a fait travailler ensemble. Et puis, bah, on voulait les deux utiliser des pédales d'effet pour réunir encore plus notre son.
On va maintenant, si vous voulez bien, parce que vous êtes, vous, en tournée avec Diagonal Jazz. Vous serez notamment à Fribourg, Marly, le 28 à l'Upjazz, le 30 à Soleure, le 6 février à Coire et le 11 à Rorschach, dans le cadre de cette tournée de tous ces groupes qui parcourent tout le pays. Mais là, on va se tourner vers d'autres groupes, d'autres personnes très attendues en Suisse. Et on retrouve Olivier Horner. Olivier, bonjour. Vous avez sélectionné quelques concerts pop et rock très attendus cette année, donc en Suisse romande principalement, mais aussi quelques gros événements alémaniques et tessinois.
C'est ça, sans beaucoup d'accordéons, hein, voire pas du tout d'accordéons, désolé Léa Gasser. On va commencer peut-être par quelques comebacks, comme celui du duo versaillais de musique électronique Air, qu'on entend, qui vient rejouer son premier album, le mélancolique et emblématique Moon Safari, qui fête ses 25 ans. Donc, et ce sera le 24 février au Victoria Hall de Genève dans le cadre du festival Antigel. Loin de la French Touch et plus proche du rock à grosse guitare, on note aussi le retour du chanteur américain Lenny Kravitz. Ce sera au festival Moon and Star de Locarno le 15 juillet et c'est dans le sillage d'un nouvel album qui est annoncé pour le mois de mai. Autre comeback encore au Dog de Lausanne, cette fois le 21 mars, celui de la chanteuse Chrissy Hynde. Chef de gang des Pretenders, le groupe anglo-américain a publié son 12e album en fin d'année dernière, toujours très rock et mélodique, ça s'appelait Relentless. Et là, on change de registre, tout droit devenu des États-Unis, mais dans la catégorie super production. Il faut noter les venues de deux superstars de la pop, soit d'un côté Pink, qui prend d'assaut le 3 juillet le Stade de Suisse à Berne, et de l'autre sa consœur Taylor Swift, qui continue elle d'affoler les compteurs, puisque sa double venue au Stade du Letzigrund à Zurich les 9 et 10 juillet prochains est complète.
Ça vous parle, Pink ou Taylor Swift, Léa Gasser?
Bah, j'écoute pas souvent, disons ouais. Comme ça.
C'est un bel diplomate. Vous devriez faire de la diplomatie, effectivement. On annonce le retour de rock des années 80.
Pardon ?
Les groupes des années 80 ?
Ah oui, c'est un éternel retour. Hein. Mais plus près de chez nous, oui, côté rock culte, il ne faudra pas manquer les venues de Echo and the Bunnymen le 14 avril au Docks de Lausanne et de The Jesus and the Mary Chain le lendemain, le 15 avril, à l'usine PTR de Genève. Parce que depuis leur premier album Crocodile, lancé à Liverpool en 1980, Echo and the Bunnymen développe un répertoire hybride entre New Wave et post-punk, porté par la voix aussi charismatique que mythique qu'on entend là de Ian McCulloch. Alors que les Écossais, eux, de Jesus and the Mary Chains, versent depuis 1985 et leur premier album Psycho Candy dans un show gaze constitué de guitares bruyantes, de mélodies sombres et de paroles introspectives. Et le groupe fête ses 40 ans d'existence cette année. Ça vous parle plus, ça ? Toujours pas ?
Toujours pas.
Bah, alors j'ai quelque chose pour vous, peut-être. Pour revenir dans votre domaine, Léa Gasser, on relèvera au QI Jazz Festival. J'ai prononcé le mot jazz, attention. Le 5 avril, le concert du fabuleux duo formé de la saxophoniste new-yorkaise Lakeisha Benjamin et de la chanteuse Didi Bridgewater. Et puis le 7 avril, il y a le trio du pianiste jamaïcain Monty Alexander qui vient fêter lui ses 80 ans en même temps que célébrer musicalement le D-Day, soit le débarquement en Normandie le 6 juin 1944. Et pour cette ode à la liberté et à l'héroïsme qu'on nous promet avec des morceaux écrits durant la Deuxième Guerre mondiale, il sera accompagné du contrebassiste Luke Schellick et du batteur Jason Brown.
Et puis il y a quelques autres stars aussi présentes à QI, notamment, non ?
Non.
Ah bon, il me semblait.
Pas du tout. On s'était arrêté là, je crois.
Bon, QIJazz.ch pour d'autres informations. Pas une seule ou pas un seul accordéoniste dans ces propositions. Est-ce que vous connaissez toutes et tous les accordéonistes de jazz parce que vous êtes très peu nombreux, vous formez un petit groupe comme ça ensemble? Vous vous connaissez?
Non, pas trop en fait. Bah oui, je connais quelques personnes, mais. Non, ça pourrait se faire un peu plus, je trouve.
Une association des accordéonistes.
C'est ça, voilà. On peut vous prêter un local, éventuellement. Je crois que vous n'êtes pas très, très, très nombreux. Comment est-ce que vous êtes perçu dans le milieu du jazz lorsque vous arrivez avec votre accordéon? Est-ce qu'on vous voit comme une étrangeté, quelqu'un de bizarre? Ou est-ce que désormais, c'est bien admis qu'une femme à l'accordéon dans ce milieu du jazz, c'est tout à fait normal et naturel aujourd'hui?
C'est vrai, j'avais une fois à Berne suivi quelques cours de jazz et puis on m'avait demandé comment je me sentais comme accordéoniste dans l'école de jazz et puis je me suis dit ouh, c'est pas cool cette question parce que ça veut dire déjà que ça fait bizarre de voir une accordéoniste dans une école de jazz. Mais je pense sinon à l'Otécole ici à Lausanne, j'étais très bienvenue, je crois. Là-bas, c'est un peu égal quel instrument tu joues. C'est juste bien si t'es intéressé, t'es là, tu veux faire tes choses. Mais ouais, j'imagine ça. Bah, souvent, chez le public, j'ai un retour très curieux où on me dit ouais, mais c'était très beau, mais je connaissais pas du tout l'accordéon de jazz. Du coup, je crois, chez les gens, c'est encore très peu connu.
Il y a une curiosité, effectivement, pour cet instrument dans le jazz, comme pour la harpe. On trouve des harpistes aussi dans le jazz. Lorsqu'on parle accordéon jazz, on pense évidemment tango, on pense à Richard Galliano et à d'autres, évidemment. Ce sont des références que vous avez aussi en tête, ce sont des gens que vous avez écoutés, Léa Gasser?
Ouais. Galliano, j'ai pas mal écouté, mais après, j'ai quand même souvent écouté aussi Vincent Peirani, qui lui, il est un peu plus jeune. Et puis, je trouve, il montrait l'accordéon jazz encore dans une autre lumière, je sais pas, il a essayé des choses qui me parlaient encore plus, et je crois que c'est lui, l'accordéoniste jazz, qui m'a influencé quand même le plus.
Le plus. Vincent Periani, qui est moins tango que Richard Galliano.
Oui, faut quand même le dire,
qui est plus dans une forme de modernité. Merci beaucoup, Léa Gasser. Merci d'être venu nous voir. On va se quitter en musique avec un extrait de ce disque que vous avez enregistré avec votre quintette. Ça s'appelle Solid Ground. C'est le Pascal Cherly Remix. Il y a des remixes alors, hein, c'est ça?
Ouais.
Ouais. Alors on vous écoute. Merci beaucoup. Je rappelle vos concerts le 28 donc à Lub Jazz à Fribourg, le 30 à Soleure, le 6 février à Coire et le 11 février en tout cas à Rorschach dans le cadre de cette tournée Diagonal Jazz 2024. Merci beaucoup, à bientôt.
Merci beaucoup à vous.
Gasser et son quintette avec Solid Ground. Elle sera, je vous le rappelle, le 28 à Lub Jazz à Fribourg, le 30 à Soleure, le 6 février à Coire et le 11 février à Rorschach dans le cadre de sa tournée Diagonal Jazz 2024. 17h30 dans Vertigo. Que se passe-t-il ailleurs dans le monde de la culture?
L'actu culturelle dans Vertigo.
Soixante mille personnes ont investi les salles de cinéma de la ville de Soleure à l'occasion de la 59e édition des Journées de Soleure. Un beau succès qui rejoint les chiffres pré-Covid, nous dit-on, et repositionne le festival comme vitrine du cinéma suisse. Le public a également rajeuni, selon la co-directrice Monica Rosenberg, qui annonce par ailleurs que 5000 élèves ont assisté à des représentations scolaires. Les Journées de Soleure sont également le rendez-vous des professionnels du cinéma avec cette année l'installation du programme de rencontre So Pro dans un lieu central, nous dit-on, avec succès, semble-t-il. Plus plus de 390 000 personnes ont visité le château de Chillon l'an passé, qui reste le monument le plus visité de Suisse, majoritairement par le public national, suivi des Américains et des Français, qui constituent le top 3. Je me demande si j'ai pas déjà dit la même chose l'an passé. Ah bah si. On notera que les manifestations culturelles proposées dans l'enceinte du château, comme en ce moment l'exposition de la plasticienne Léa Lynn, connaissent un beau succès. Le château médiéval appartient à l'état de Vaud. Il est l'un des mieux conservés en Europe. Elle sortait pratiquement un disque par an depuis 1969, année de son passage très remarqué sur la scène du festival de Woodstock. Mélanie, la chanteuse américaine que l'on connaît pour ses tubes mondiaux « Look what they've done to my song Ma » ou encore « Brand New Key » est morte, elle avait 76 ans. Née à New York, formée dans une école d'art dramatique, elle était l'une des trois femmes présentes à Woodstock avec Janis Joplin et Joan Baez. Ses chansons imprègnent toute la pop culture américaine et figurent notamment dans la bande originale de nombreux films ou de séries récentes.
What they've done to my song, Ma. Look what they've done to my song. Well, it's the only thing I could do half right. It's turning out all wrong, Ma. Look what they've done to my song. Look what they've done.
Très très belle voix qui se mélange pour cette chanson, Miley Cyrus et Mélanie, donc reprenons en chœur ensemble cette chanson que vous connaissiez évidemment, Look What They've Done To My Song Ma. C'était notre clin d'œil donc à la disparition de la chanteuse Mélanie. Mais là on va se tourner vers tout à fait autre chose, on va rejoindre Leila Chlonsky quelque part à Lausanne. Chanson extraite du premier album du groupe de musique Tsamakan, dont vous avez entendu divers extraits. L'album est disponible depuis le 13 janvier de cette année, avec Baptiste Ferrandis à la guitare, Abdallah Abouzekri au saz. Le saz, c'est un instrument qui ressemble à un luth avec un long manche. Et là, on entend au violon le violoniste indo-suisse Baiju Bat. Bonjour Leila Chlonsky.
Bonjour Pierre-Philippe.
Et vous êtes en direct en compagnie de Baiju Bat quelque part, mais où ?
Alors, on est dans l'une des écoles dans laquelle Baiju Bat enseigne. Ça s'appelle la Compagnie Albertine, ici à Lausanne. Baiju Bat, je me tourne vers vous. Vous êtes à côté de moi. Bonjour.
Bonjour.
Vous commencez le violon à l'âge de 6 ans. Vous vous formez de manière classique au Conservatoire de Lausanne avant de finaliser un master en jazz. On vous connaît surtout pour votre projet musical Red Sun, ainsi que pour vos projets pédagogiques comme les mini strings ici à Lausanne. Mais vous faites également partie d'un trio. Tsamakan, c'est la contraction de deux mots, espace et temps en arabe. Aujourd'hui, avec ce groupe, vous sortez un premier album appelé « Dans le ventre de la nuit ». Zamakan, au départ, c'est un duo entre Abdallah Abozekri et Baptiste Ferrandis. Comment vous les avez rencontrés ?
Alors, Baptiste est un ami de longue date que j'ai rencontré il y a plus de 10 ans. On a fait nos armes ensemble dans les caves à jazz, jazz manouche parisienne. On s'est rencontrés en jam et puis on a eu nos premiers projets ensemble il y a bien longtemps. Et puis j'ai rencontré Abdallah via Baptiste. Ils se sont rencontrés parce que Abdallah... Bah, Paris, c'est un endroit où se croisent plein de monde, du monde entier. Et puis Abdallah avait besoin d'un endroit où dormir. Or, il a dormi sur le canapé de Baptiste. Et c'est là que tout a commencé. Et puis je les ai rejoints un peu plus tard. Ils m'ont invité en concert là-bas à Paris. Et puis je les ai invités en concert ici en Suisse. Et petit à petit, on a décidé de continuer à travailler ensemble.
Et ce premier album, il s'appelle « Dans le ventre de la nuit ». C'est très poétique. Pourquoi ce titre ?
C'est une très bonne question. Donc, à propos de poésie, ce projet d'album, il y a un côté musical, mais il y a aussi véritablement de la poésie qui a été écrite par notre ami Mahmoud Bayoumi, qui est un poète égyptien qui vit à Grenoble. C'est un père de cœur pour Abdallah et son frère Mohamed Abozekri. Et il était avec nous d'ailleurs aussi en live pour la sortie parisienne de l'album. Et dans le ventre de la nuit, ça peut faire référence à plein de choses. Moi, j'aime bien l'image du ventre comme lieu de chaleur, de sang, de viscères, des fois de douleur, mais surtout de fertilité, de créativité, de naissance, évidemment de gestation. Et j'aime cette idée de temps de gestation et de cocon fertile.
Et en parlant de cocon fertile, c'est vrai que dans cet album, il est très fertile parce que c'est un mélange de sonorités orientales, manouches, avec la guitare notamment. C'est vraiment un mélange magnifique et c'est aussi dû à vos métissages personnels. Vous êtes indien de par votre père. Abdallah Abozekri, il est né au Caire, il est égyptien. Baptiste Ferrandiste, français. Ce métissage musical, c'est aussi l'ADN du groupe, d'une certaine manière, non ?
Je pense que c'est l'ADN de ce groupe et puis de chacun de mes autres projets comme Red Sun par exemple ou à l'époque The Band Beyond Borders avec mes amis Amin et Hamza. L'idée c'est, je pense que l'idée sous-jacente c'est la rencontre, mais la rencontre véritable avec des gens qui sont d'une culture différente et qui amènent leur bagage, leurs références, leurs idées. Et l'idée c'est de prendre le temps de se rencontrer et de trouver véritablement un terrain d'entente en se mettant d'accord, en apprenant à se mettre d'accord, en apprenant aussi à ne pas être d'accord, en apprenant à trouver des solutions, puis en essayant de trouver quelque chose qui nous... de servir quelque chose qui nous dépasse finalement. C'est-à-dire au final, on a cette musique qui nous unit, on ne sait pas encore exactement à quoi va ressembler un morceau quand on commence à travailler ensemble et petit à petit ça prend forme. Et cette idée de repasser les choses sur l'enclume encore et encore, malgré les écueils, malgré les... Voilà, j'aime bien cette idée de mettre les mains dans le cambouis et de trouver un terrain d'entente.
Ouais. On l'a dit, on est dans l'école La Compagnie Albertine. Vous enseignez également au Conservatoire de Lausanne pour l'ensemble des mini-strings et des mini-swings. J'aimerais quand même parler de l'enseignement. En quoi ça nourrit votre travail d'artiste, de violoniste ?
Déjà, j'aimerais dire que l'enseignement, c'est quelque chose de très gratifiant pour moi. J'ai la chance de travailler avec des élèves qui sont super intéressés et super talentueux. J'adore travailler avec ces jeunes musiciens, tout simplement parce qu'ils ont une énergie qui est formidable. Je leur en donne aussi, je crois. Et donc, c'est une rencontre qui est très belle. Après, je pense que c'est très important dans un contexte notamment comme celui de l'improvisation et du jazz au violon, de pouvoir s'inspirer aussi de traditions où le violon a une place prépondérante, ainsi que l'improvisation. Et ça inclut les musiques populaires, les musiques traditionnelles du monde, où il y a énormément de choses à prendre. Et donc, ça fait partie des choses qu'on transmet, que je transmets dans mon enseignement, tant pour les ensembles que dans les cours individuels. Et le fait d'enseigner, ça oblige à apprendre à séquencer et systématiser le matériau musical. Et vu que le violon dans le jazz et l'improvisation, c'est un monde où il y a encore beaucoup de choses à faire, c'est une entreprise passionnante pour moi que de réfléchir à comment transmettre ces informations de manière systématique et claire.
Merci Leïla, et merci à vous Bayou Bat. Vous serez, je le signale, Bayou Bat en concert, donc avec votre trio Tsamakan. Ça va se passer le 2 mars, c'est à 19h, c'est à la librairie de l'Olivier à Genève pour la présentation genevoise de cet album. On va se quitter avec le morceau dont on a entendu un très court extrait en début d'entretien. Il s'appelle Here and Now, il est extrait de Dans le ventre de la nuit, premier disque du trio Tsamakan, disponible depuis le 13 janvier. Extrait de cet album Dans le ventre de la nuit, le premier album, vous l'aurez compris, du trio Tsamakan, et nous étions en compagnie de Leïla Chansky et du violoniste Bayou Bat qui nous a un petit peu raconté l'histoire de cet album et de ce groupe et de cette rencontre. On est très musique aujourd'hui dans l'émission. On va changer de continent, de l'Inde. On va aller un petit peu plus au sud-ouest de l'Inde et nous voici quelque part dans une sorte de Kurdistan.
La musique dans Vertigo.
Je dis une sorte de Kurdistan, Thierry, parce qu'on vous a pas envoyé au Kurdistan.
Mais non, j'étais tout près de la gare Cornavin à Genève. Plus exactement au café Diyar. Poussez la porte et vous êtes quand même au Kurdistan. Ouais. Assistance, 100% masculine, joyeuse, bavarde. On y joue au hockey, une sorte de rami, un jeu avec des petites plaques qu'on écoutait cliqueter comme ça avant. Et c'est là que j'ai rencontré Ramazan Baytar. Il est responsable de la communication du Centre Société Démocratique Kurde de Genève.
Et c'est donc à cette association que l'on doit la 13e édition de ce festival consacré à la culture kurde. Ça va se passer ce samedi 27 janvier aux Avanchés, au programme Poésie, Cinéma, Théâtre, et alors une superstar de la musique kurde.
Exactement, qui va venir, qu'on ne connaît pas ici, mais c'est toute une liste de chanteurs, chanteuses. La musique kurde, on l'entend parfois doctement lors de concerts d'ethnomusicologie.
En effet.
On est assis, mais là c'est du vrai de vrai au sein de la communauté, alors j'ai voulu en savoir plus. Première question, Ramazan Baytar, à ses concerts, est-ce que le public est assis ?
Un concert de musique kurde sans danse, c'est pas possible. Même à toutes les manifestations qu'on organise, ils peuvent pas s'empêcher de danser. Alors qu'en général, on vit quand même une situation assez tragique. Mais je crois que c'est une manière de dédramatiser, de prendre du recul, la distance par rapport au vécu. Puis c'est la raison pour laquelle ils dansent.
À l'affiche de ce festival kurde, on le disait Thierry, un nom ressort, il est inconnu du public occidental, donc de nous, car nous sommes le public occidental, mais alors c'est une superstar dans toute l'Anatolie.
Oui, il s'appelle Seyda Perinçek, 46 ans, il est originaire de Derik, une pâle à la série policière, mais une petite ville proche de la frontière syrienne.
On n'est pas celle-là.
Ça c'est dans le sud-est de la Turquie. Il chante en s'accompagnant du baglama ou saz, l'instrument traditionnel de la région. Et oui, c'est une star, Pierre Philippe. L'extrait que l'on va entendre, sa chanson Seva Dilete, c'est 11 millions de vues sur YouTube. Des fois, il est à 20 millions.
بقصيد اللي زيت أمام jibota shawat naghma agre ta khashayari.
C'est plutôt style barde, en tout cas pour ce qui concerne Saïda Perinçek. C'est aussi une musique engagée, si ce n'est que par le fait qu'il chante kurde. Mais c'est une personne très très modeste. Moi j'ai eu l'occasion de le rencontrer à d'autres soirées, je ne savais même pas que c'était lui. Donc, voilà, il était dans son petit coin comme tout le monde, mais c'est un chanteur célèbre.
Le simple fait d'organiser un concert de musique kurde en kurde, c'est déjà un acte politique au-delà de l'acte purement culturel.
Oui, bien sûr, c'est un acte politique, mais c'est aussi un acte culturel, dans le sens que toute démarche culturelle ou toute production culturelle fait référence à un certain animisme, à une imitation de la nature, à un désir d'être en harmonie avec la nature. Et c'est aussi un acte de résistance, de rester humain, de rester en accord avec la nature.
Est-ce que ça appelle l'accordéon, Léa Gasser, ce genre de musique? Je vous voyais écouter cette musique-là, ça vous parle un peu?
Oui, beaucoup, ouais. Ouais, c'est trop beau.
Trop beau, ouais. Et ben voilà, et ben on en parle de ce saz ou du baglama du chanteur Saïda Perinçek qu'on entend là en ce moment. Le peuple kurde, on le disait, se répartit entre quatre pays, la Turquie, l'Iran, l'Irak et la Syrie. Est-ce que tout le monde écoute la même musique, Thierry?
Eh bien, réponse de notre expert, Ramazan Baytar.
On parle essentiellement quatre dialectes chez les Kurdes. Encore une fois, le dénominateur commun, c'est justement cet aspect humain qui fait que l'être humain est humain, cette volonté de rester en harmonie avec la nature, cette approche un petit peu métaphysique, cette fantasmagorique, cet animisme, et à le partager avec autrui, cet amour. Il y a un dénominateur commun comme ça.
À un festival comme le vôtre, ce samedi aux Avanchés, vous attendez toute la communauté kurde de Genève, ou des gens de beaucoup plus loin, ou des gens aussi peut-être qui ne sont pas kurdes?
C'est pour les peuples qui habitent le Kurdistan ou le Moyen-Orient. Les Turcs peuvent venir, les Arabes peuvent venir, les Assyriens peuvent venir, les Chaldéens peuvent venir, les Arméniens peuvent venir, les Suisses peuvent venir. C'est ouvert au public. À partir du moment où ils sont ouverts, qu'ils sont démocrates, c'est vraiment ouvert. C'est pas du tout un truc fanatique ou renfermé, pas du tout. Après, bien sûr, on a nos mesures de sécurité, etc. On a un contrôle interne, juste, mais c'est pour tout le monde, ça. C'est pas parce qu'il vient d'une telle origine ou je sais pas quoi.
Ramazan Baytar du Centre Société Démocratique Kurde avec vous, Thierry Sartoretti. La 13e édition de cette journée culturelle kurde, c'est donc ce samedi à la salle des fêtes des Avanchés et c'est à Genève. Et celui qu'on entend, c'est Saïda Perinçek, c'est ça?
Non, c'est un autre chanteur qui s'appelle, je crois, Ilmaz Ikilmaz.
Ilmaz Ikilmaz, il a un nom de footballeur turc, je trouve. Non,
il est kurde.
Ah bah pardon, il est kurde. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Thierry.
Je pense à Turk Ilmaz, en fait, c'est ça.
Oui, c'est ça. Oui, c'est juste. Je pense à Turk Ilmaz, exactement. Merci beaucoup. On va maintenant passer à complètement autre chose. Du Kurdistan, on va aller vers, on va dire, le 5e arrondissement de Paris. Allez, à peu près.
Qu'est-ce que c'est que tout ça, ces coupages de cheveux en quatre? Ce sont des moments où quelque chose se passe, où on n'est pas content. Parce que quand on est content, on dit il n'y a pas d'histoire. C'est quand il y a une sorte de rupture, un malaise. C'est là que je m'attache parce qu'à ce moment-là, tout se met à bouillonner.
Cette voix, c'est celle de Nathalie Sarraute. En 1986, le jeune Michel Voïta rencontre Nathalie Sarraute au Festival d'Avignon. Celle-ci a 86 ans. C'est une figure des lettres françaises, avocate, romancière, dramaturge. Elle fera partie du mouvement dit du nouveau roman avec Alain Robbe-Grillet, Michel Butor ou encore Claude Simon. Des auteurs qui sont en rupture avec les formes traditionnelles du récit et pour qui le roman n'est pas l'écriture d'une aventure, mais bien l'aventure d'une écriture. Bonsoir Michel Voïta.
Et bonsoir.
Qu'est-ce que ça vous fait d'entendre la voix de Nathalie Sarraute?
Mais j'ai trouvé ça très très émouvant parce que vraiment c'est, je connaissais pas ce petit extrait en plus, donc oui ça me fait revenir vers elle. Et c'est une rencontre qui avait été lumineuse, formidable. Parce que c'était une vieille dame tout à fait exceptionnelle. Vous êtes d'accord qu'on l'a rencontrée, effectivement, elle avait 86 ans, mais elle disait qu'elle en avait 82 quand même. Elle chipotait un peu sur son âge, mais c'était une personne mais d'une intelligence mais lumineuse, avec beaucoup d'humour, et puis une culture incroyable. Enfin, c'était une très très grande personne, très très grande personne.
Et alors, Michel Voïta, c'est cette rencontre que vous allez nous raconter, puisque lorsque vous êtes à Avignon en 1986, c'est pour jouer l'une de ces pièces qui s'intitule Pour un oui et pour un non, et c'est à cette occasion que vous la rencontrez. Vous serez demain, vendredi, samedi et dimanche au théâtre de l'Odéon à Villeneuve pour lire en scène Nathalie Sarraute. Vous aviez déjà lu Proust, vous aviez déjà lu Camus. Qu'est-ce que vous allez nous dire et nous lire, nous raconter au fond de Nathalie Sarraute?
Alors, je fais juste une petite précision, c'est-à-dire que Camus et Proust, je ne les avais pas lus, je les avais appris. Mais là, alors que là, je vais lire. Non. Je vais lire donc des textes de l'usage de la parole, des petits textes relativement courts, comme ça, qui parlent toujours dans le sillage de ces tropismes, hein, ces petites oscillations de l'âme à la limite du conscient et dans les situations les plus banales d'une vie qui passe, comme ça. Donc, je vais lire ces textes, puis entre ces textes, comme ça, je vais raconter effectivement ma rencontre avec cette femme exceptionnelle, puis avec les autres protagonistes de ce spectacle. Il y avait Maria Cazares, il y avait Jean-Paul Roussillon, il y avait que du beau monde quand même. Donc voilà, c'est une soirée qui va se passer sur une heure et quart, comme ça. Si vous connaissez déjà Sarraute ou croyez connaître Sarraute, venez la retrouver, mais si vous la connaissez pas, venez la découvrir, vous n'allez pas vous ennuyer. Parce que c'est quand même quelqu'un qui a quand même pas mal d'humour.
Qu'est-ce qu'elle disait de ses pièces, Nathalie Sarraute, vous qui l'avez rencontrée à l'occasion justement d'une de vos apparitions sur scène, jouant une pièce de Nathalie Sarraute?
Elle laissait beaucoup de liberté à tous les metteurs en scène, mais derrière, elle avait la dent très dure.
C'est-à-dire
qu'elle savait exactement ce qu'elle voulait, ce qu'elle aimait, comment elle l'aimait, pourquoi elle l'aimait. Et puis, elle était d'une précision, et d'ailleurs, ses textes sont d'une précision absolue. Si on change ne serait-ce qu'une virgule, on change le sens. Et moi, elle a appris aux jeunes comédiens que j'étais à ce moment-là l'importance de la virgule, l'importance de toute la ponctuation, qui est le rythme d'un texte, lorsqu'il est bien fait, lorsque l'auteur est bon. Et c'est depuis là, je n'ai plus jamais dit un texte de la même manière, cette expérience, Nathalie Sarraute, ça a changé ma manière de dire un texte.
Alors, lorsqu'on parle de Nathalie Sarraute, je l'ai dit tout à l'heure, on évoque le nouveau roman, Alain Robbe-Grillet et les autres. Tout le monde n'est pas forcément très fan de ce style d'écriture. Nathalie Sarraute reste quand même quelqu'un de très important, et vous le soulignez, Michel Voïta, ses textes résonnent encore en vous. Où est sa force, Nathalie Sarraute?
Je pense que c'était la moins formaliste de tous. C'est-à-dire qu'elle travaillait sur les sentiments, elle travaillait sur quelque chose qui était moins formaliste. Les autres étaient très très formalistes, elle pas. Et il me plaît beaucoup de voir que sur le temps, ceux qui ne sont pas trop formalistes demeurent. C'est un peu la même différence qu'entre Camus et Sartre pour moi. C'est-à-dire que ce moment, on dit que Camus est un peu sentimental entre guillemets par rapport à Sartre, et puis ensuite on s'aperçoit avec le temps qu'en fait Camus était tout à fait formidable. Voilà. Et là Sarraute c'est pareil.
Il y a les écrivains qui sont dans la vie et ceux qui sont dans l'écriture. Sarraute ou Camus sont dans la vie, c'est ça qu'on pourrait dire?
Oui, on pourrait dire ça comme ça, oui. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ça. Oui.
Alors, si vous êtes d'accord avec moi, je suis content.
Michel,
oui, au revoir.
Michel Voïta sur la scène donc du théâtre de l'Odéon, c'est à Villeneuve, vendredi, samedi et dimanche. Une dernière question par rapport au fait que, alors évidemment, Camus et Proust, vous les avez appris, déjà c'est une belle performance, là vous allez lire Nathalie Sarraute.
Qu'est-ce que
le comédien de cinéma, de télévision, de théâtre que vous êtes, qu'est-ce que ça vous apporte d'être sur scène et de lire un texte face au public? Quel plaisir particulier.
C'est une grande joie. C'est une très très grande joie. C'est une chose très très différente d'avoir le public qui est là. C'est quelque chose, moi, qui parle à l'animal comédien que je suis. C'est un rapport animal. Ils sont là, je suis là, je les sens, je les écoute. Pendant que je parle, je les écoute, je les sens. C'est quelque chose qui est jouissif, merveilleusement jouissif. J'adore ça.
Merci, moi, Michel Voïta.
Merci à vous. Merci.
À voir donc Nathalie Sarraute. C'est à Villeneuve, au théâtre de l'Odéon, Villeneuve dans le canton de Vaud, vendredi, samedi et dimanche. Merci beaucoup. Excellente soirée à vous et à très bientôt.
Merci. À très bientôt. Au revoir.
Au revoir. On se quitte avec le coup de cœur de notre programmateur Bastien Arnold. Voici My Love, Mine, All Mine. My Love, Mine, All Mine, c'est le choix, le coup de cœur de notre programmateur musical, Bastien Arnold. Voici l'inforoute.
Infotrafic RTS.
On annonce des ralentissements à l'approche des douanes du Col des Roches de Valorbe et de Bardonnay. D'autres informations sur notre site rts.ch/trafic.
Infotrafic RTS, en collaboration avec les CFF et le TCS.
C'était Vertigo avec Pierre-Philippe Cader.
Et toute l'équipe de Vertigo, nous avons reçu aujourd'hui l'accordéoniste jazz Léa Gasser. Je vous rappelle ses concerts dans le cadre de la tournée suisse Diagonal Jazz 2024. Le 28 à le Jazz de Fribourg-Marly, le 30 à Soleure, le 6 février à Coire, le 11 février à Rorschach. Il y a d'autres dates sur le site Diagonal Jazz. Si vous avez manqué tout ou partie de cette émission, n'hésitez pas à la réécouter. C'est très facile, rts.ch/Vertigo. Une remarque à nous faire, par exemple, ça peut arriver, un défaut de prononciation ou je ne sais pas, une erreur historique.
Pas vous.
Si, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde. Voilà, j'ai dit footballeur, kurde, turc, j'ai mélangé les choses. Bon, voilà, vertigo@rts.ch pour nous dire tout le bien que vous pensez de nous. On vous souhaite toutes et tous de passer une excellente soirée et on vous donne rendez-vous demain dans Vertigo dès 17h.
La première vous offre l'heure.
Demain, Marion Canavacini, autrice de BD et tricoteuse d'objets, sera l'invitée de Vertigo les 18h.